Cette deuxième partie prévoit les dindons de la farce de Marc Aurignan.
Oui, c'est pas une recette, effectivement.
Oui. De texte,
oui.
Michel.
Mais écoute, comme pour les librairies, j'ai reçu un courriel, c'était il y a trois jours, hein, d'un collectif intitulé hein, « Les dindons de la farce ». De Marc Aurignan, je précise, parce que c'est pas forcément évident pour tout le monde de savoir que c'est un collectif de Marc Aurignan. Et un des animateurs de ce collectif m'explique le pourquoi de ce courriel et de ce collectif d'Indon de la Farce. Il me dit, voilà, on habite Marc Aurignan, hein, dans une dernière maison qui est à la périphérie du village, mais qui touche le village, et nous sommes scandalisés par le fait que, sans que personne n'ait été informé, ni le maire, ni nous, hein, on nous impose, si tant est que cela se fasse un jour, prison, en fait, et puis à côté de la prison, en fait, hein, une aire de grand passage pour les gens du voyage.
Bon. Pour eux, c'est la totale, quoi.
Je veux dire, alors j'ouvre une parenthèse quand même. Nos élus, il y a un inconscient du politique chez nos élus, enfin, plutôt un inconscient chez nos politiques qui les amène effectivement à mettre en relation une prison avec une aire du grand passage.
Je sais pas si c'est voulu.
On se dit, bon, mon Dieu, pourvu que les gens du voyage n'aient pas cette information, parce que je suis à peu près persuadé
qu'ils ne voudront pas y aller
du tout.
Comme à la panne, pareil.
À l'idée que demain, peut-être, une prison s'installe effectivement à côté de leur aire.
L'environnement ne serait pas digne.
Passons, enfin, voilà le genre de petites choses qui m'amusent, mais qui montrent quand même que quelquefois, les politiques qui raisonnent de manière tricotermiste, en fait, et au jour le jour comme ça, ne voient pas le genre d'effet, en fait, pervers que peuvent avoir des propositions de ce style.
Et alors,
ils ne sont pas contents du tout, parce que, certes, la prison serait prévue sur le territoire de Narbonne, j'ouvre encore une parenthèse, hein, j'ai écrit un billet là-dessus, dans lequel je démontrais que les annonces faites en son temps par Mme Farbe, en fait, et M. Courtois réunis, en fait, et puis d'autres, étaient totalement infondées, et que cette prison ne verrait jamais le jour, en fait, dans ce coin-là, sinon à une échéance qui reporté à 50 ans, bon, je ferme la parenthèse, quoi. Mais quand même, donc, c'est dans l'air, c'est dans la conscience des gens, quoi.
Rien
de conscience, quoi. Et donc, parce que, un, ni leur maire, paraît-il, je ne vais pas interroger, ni eux surtout, hein, n'étaient informés de ces décisions, en fait, de ces propositions, alors que ces deux investissements, lourds quand même, seraient pour l'un sur le territoire de la ville de Moussan et l'autre sur le territoire de la ville de Narbonne.
Donc aucun alors, sur Marc Aurignan.
Aucun sur Marc Aurignan.
Donc
ça veut dire que le maire, lui, la commune, ne bénéficiera pas du tout du moindre centime, en fait, si tant est qu'il y a de taxes foncières, en fait, et autres, mais qu'ils auront par contre tous les inconvénients à la fois esthétiques et, si je puis dire, sociaux.
De proximité.
Hein, indépendamment de l'image de marque que ces deux gros investissements apporteront effectivement à leur petit village.
Voilà mais, d'où les dindons.
Pourquoi j'ai fait un billet là-dessus? Parce que, mine de rien, hein, ce petit événement pose un problème sérieux et de fond d'aménagement du territoire. Pourquoi? Parce que il se trouve que je connais un peu ce territoire situé entre Château de Levrette, en fait, hein, Narbonne, en fait, et Marc Aurignan, qui est un territoire aujourd'hui vierge, en fait, de toute zone urbaine d'investissement,
et qui est un superbe
effectivement paysage, quoi. Hein. Et je me suis dit, mais voyons voir. Nous sommes dans une agglomération. En fait, je parle de l'agglomération du Grand Narbonne, qui se distingue de toutes les autres agglomérations de la côte languedocienne par une caractéristique, en fait, géographique, qui est que il n'y a pas d'étalement urbain.
Il y a une discontinuité
qui résulte à la fois de contraintes environnementales imposées par l'État.
Donc les espaces verts,
naturels,
les espaces verts, ils y sont.
Donc c'est une valeur ajoutée, en fait, je dirais patrimoniale, environnementale, en fait, et touristique conséquemment. Absolument incroyable. Eh bien, là, figure-toi que le SCOT, je l'ai pas encore relu, mais je me souviens d'une époque, en fait, au tout début des SCOT, quand Michel Moigny était président de l'agglo, où j'avais fait observer qu'il fallait absolument mettre des bulles, en fait, pour préserver effectivement tous ces espaces verts, en fait, pour éviter des liaisons urbaines qui pourriraient effectivement, si je puis dire, en fait, cette constellation de villes autour de la ville centre. Eh bien, là, apparemment, le SCOT permettrait effectivement de faire cela. C'est une Enfin, je pèse mes mots, quoi. Hein. C'est une aberration. De sorte que je pose la question dans mon billet fait, aux élus fait, du Grand Armand. Mais attendez, c'est comme cela que vous concevez fait, une politique, non pas d'aménagement, mais de ménagement du territoire. Je dis ménager parce que je reprends en fait, le concept d'un grand géographe de l'époque, qui s'appelle Roger Brunet, qui disait « Ne parlons plus d'aménagement du territoire, ça, c'est trop brutal, parlons de ménagement oui, en fait, du voilà. territoire. Bon, » Et si jamais nous commençons à faire avec nos élus, il y en a un conseil communautaire qui est à côté de nous, là, invité, ménager le territoire parce qu'il est très fragile, oui. et surtout préserver cette valeur ajoutée, cette caractéristique, éviter ce genre d'investissement dans ce genre d'endroit, c'est quasiment criminel d'un point de vue environnemental.
Voilà. Alors on va pas ménager les sensibilités pour le deuxième sujet qui clôturera cette deuxième partie. 120 journalistes accrédités à l'Élysée, pas un de moins semble-t-il. Et alors à quoi ça sert ?
Ah ben écoute, il se trouve que je suis abonné en fait, à la matinale du Monde. Hein, qui permet d'avoir on paye €1,99 par mois et j'ai tous les jours
écrit par un des 120
voilà ça sans aucun doute hein, et qui permet tous les matins je reçois les principaux en fait, des articles en tout cas ceux retenus par la rédaction du Monde et je lis la matinale et je tombe sur un article alors qu'il m'a laissé pantois hein, écrit par un journaliste accrédité auprès de l'Élysée à l'évidence alors un article d'une platitude en fait mais alors, nul. Enfin, un article bon, nul. Et je me suis dit, voyons voir. Ce monsieur, avec 120 autres de ses collègues, hein, réunis au sein d'une association qui, depuis que Macron est élu, ne cesse fait, de lui demander de les recevoir en tant qu'association des 120 journalistes accrédités, pour, pendant 2 heures, en fait, l'entendre discourir sur tout un tas de thèmes. Et je me dis, voyons voir. Ces gens, hein, qui, depuis des mois, ne cessent de faire pression auprès de Macron pour qu'il soit reçu par eux, hein, bon, qu'il leur tienne le discours afin qu'il fasse en fait, un papier pour produire ce genre de texte vraiment minable, en fait, qui d'ailleurs a été repris aussi par le Figaro dans la même veine.
Oui, hein, probablement. Hein, oui.
Et je me dis, mais voilà, bon, en fait, ce papier n'a servi qu'à une chose, en tout cas pour moi, hein, mais à savoir que j'apprends l'existence d'une association des journalistes accrédités de l'Élysée, qu'ils sont 120, ils ont discouru pendant 2 heures, et que si on fait le coût économique fait, et social et financier de ce genre de raout, ça coûte la peau des fesses,
certainement,
l'expression, pour un résultat fait totalement minable. Alors,
Donc peut-être une manière d'indiquer à Macron des économies à faire quelque part.
Non mais alors ce qui m'a fait sourire, c'est que le lendemain de ce raout, c'est le secrétaire général de l'Élysée ou le responsable de communication de Macron. Qu'est-ce qu'il annonce? Que dorénavant, en fait, ces réunions-là, quand elles se feront à l'extérieur du palais de l'Élysée, dans une salle adjacente. Et là, qu'est-ce que je lis dans le même journaliste du Monde rapporte, en fait, cette décision de Macron? Il se scandalise, évidemment.
Ah, ben, bien entendu.
Et tu sais ce qu'il dit, ce journaliste? C'est absolument scandaleux parce que fait, les allées et venues fait, dans l'Élysée étaient pour nous, journalistes de l'Élysée, des motifs d'analyse fait, et d'appréciation de ce qui pouvait se passer effectivement dans ce palais.
Voilà. Bon, ben alors, reste sur le derrière.
Là, j'ai bloqué mon iPad et mon ordi. Je suis allé prendre l'air parce que vraiment, je trouve ça voilà. scandaleux.
Et c'est ce que je vous propose également, d'aller prendre l'air sur une toute petite pause. On se retrouve pour notre troisième partie avec notre invité Guy Sier.